on parle de l'hypothèse d'une attaque terroriste, je pense qu'on reste dans ce qui a toujours été la même, je dirais, assez clair là-dessus, qui est que c'est un événement improbable, mais aux conséquences tellement importantes qu'il convient de tout faire pour l'empêcher. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a une chance sur 1000 que ça arrive, qu'il ne faut pas se mobiliser là-dessus, parce qu'évidemment, un attentat nucléaire, en particulier s'il serait passé par la détonation d'une bombe nucléaire, serait un événement d'une ampleur incommensurable, encore bien supérieure à celle du 11 septembre. Ayant dit ça, ça ne veut pas dire que ce risque-là soit en augmentation ou soit permanent. On est sur quelque chose qui est à faible probabilité et haute conséquence, comme on dit. Alors, après, il y a les autres dangers nucléaires, c'est-à-dire les conséquences de la prolifération et comment est-ce que ces développements en matière de prolifération, notamment, pèsent sur la sécurité nucléaire en général. Les développements en matière de prolifération sont inquiétants, avec ce qui se passe en Corée du Nord, en Iran, etc. Et donc, il y a besoin de maîtriser mieux ce risque-là, qui est les risques associés à la prolifération nucléaire.
Est-ce qu'on a des informations? Est-ce qu'on sait déjà si des petits groupes ou même des groupes un peu plus importants ont acquis ou sont sur le point d'acquérir des armes nucléaires?
Ce qu'on sait avec une certaine précision, c'est qu'il y a eu des tentatives de détournement de matière nucléaire, c'est-à-dire d'uranium, de plutonium, quelques détournements limités réussis. Deuxièmement, on sait aussi que des groupes dont Al-Qaïda, appartenant à la nébuleuse d'Al-Qaïda, ont cherché à travailler sur des dispositifs nucléaires sans y parvenir jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'on peut savoir, c'est qu'ils ne sont pas allés très très loin et pas avec beaucoup de succès. Et donc, il n'y a pas, si vous voulez, la rencontre pour l'instant entre les deux choses essentielles pour mener un attentat de ce type, c'est-à-dire les intentions et les capacités. L'intention peut exister dans certains groupes, mais les capacités n'existent pas encore. Et ce qu'on a à redouter, c'est pas tant un attentat qui conduira à l'explosion d'une bombe nucléaire, qui est un bon scénario de film, mais qui est très improbable, qui est plus vraisemblable comme type d'attentat, c'est un attentat ce qu'on appelle radiologique, c'est-à-dire une explosion classique, comme du terrorisme classique, à proximité, par exemple, des déchets nucléaires, de manière à avoir une pollution nucléaire. Mais ce ne serait pas une explosion nucléaire comparable à Hiroshima ou Nagasaki.
En 2004, le docteur Khan, donc le père de la bombe atomique pakistanaise, avouait avoir été à l'origine d'un trafic planétaire de technologies nucléaires. Est-ce que, grâce à lui, des groupes terroristes ont acquis ces technologies?
Ce qu'on sait du réseau de ce scientifique pakistanais, de Abdul Qadir Khan, c'est qu'il a vendu des technologies, notamment les technologies de l'enrichissement de l'uranium, à des pays comme la Libye, vraisemblablement l'Iran, la Syrie, et donc il y a eu une diffusion de technologies sensibles, voire des plans d'un dispositif nucléaire exposé du monde. Il n'y a pas de traces confirmées du fait que ces ventes d'Abdul Qadir Khan se soient faites en direction de groupes non étatiques de type terroriste. Cela dit, Khan se situe dans la mouvance radicale pakistanaise, il est possible que lui-même ou des membres de son réseau aient été en contact avec des groupes islamistes radicaux. Mais ça n'est pas avéré aujourd'hui.